Voici le journal de Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Le soi-disant califat est tombé. Après les Américains, les Kurdes annoncent ce matin la chute militaire de Daesh. Baghouz en Syrie est tombé. Mais attention, défaite sur le terrain militaire ne veut pas dire fin du djihadisme et du terrorisme. Carcassonne et Trèbes, un an après, il y a un an, un terroriste islamiste tuait 4 personnes dans l'Aude. Cérémonie d'hommage aujourd'hui. Nous sommes retournés au Super U de Trèbes. 19e samedi de mobilisation des gilets jaunes, manifestations interdites dans plusieurs centres-villes, des soldats de Sentinelle mobilisés à Paris. À 8h20, Eric, vous recevez une députée parisienne de La République En Marche.
Oui, l'actualité commentée par Olivia Grégoire, députée donc La République En Marche de Paris. Elle est aussi présidente de la commission spéciale sur le projet de loi Pacte à l'Assemblée nationale.
Avant cela, à 8h10, le journal des sports de Laetitia Bernard. Le couple Papadakis-Cizeron, champion du monde de danse sur glace pour la 4e fois. Les footballeurs français qui s'imposent en Moldavie. Et le français Julien Alaphilippe donné favori de Milan-San Remo.
France Inter.
Donald Trump l'avait annoncé hier soir. Les forces démocratiques syriennes nous l'ont confirmé il y a 3 quarts d'heure environ. Le groupe Daesh a été vaincu militairement en Syrie. Déclaration du porte-parole des milices kurdes soutenues par les Occidentaux. Nous déclarons l'élimination à 100% du soi-disant califat. En ce grand jour, nous nous souvenons des milliers de martyrs qui ont rendu cette victoire possible. Fin de citation. La défaite militaire de l'État islamique s'est jouée à Baghouz, dans le sud-est de la Syrie. C'est près de l'Euphrate à la frontière avec l'Irak, Nathanaël Charbonnier.
Il aura fallu du temps pour venir à bout de cette ville de Baghouz. La première approche date du mois de janvier et l'attaque finale du début mars. Il faut dire que dans ce bastion, il y avait finalement beaucoup de monde. Il y avait tous les combattants de Daesh qui, défaite après défaite, se sont réfugiés là. Il y avait des civils qu'il a fallu extraire de la ville. Il y avait enfin les derniers prisonniers de Daesh. Conséquence, la bataille finale a demandé de la patience, de la négociation et aussi beaucoup de prudence, car Baghouz était une ville piégée. 2014-2019, il aura fallu 5 ans pour que Kurdes, Irakiens, Syriens et alliés reprennent petit à petit, ville après ville, tout le territoire conquis par Daesh. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la Syrie et l'Irak ont enfin retrouvé la totalité de leur territoire, mais ce qui est valable sur le plan géographique ne l'est pas forcément sur le plan idéologique. Le travail pour reconquérir les esprits est immense et ne pas réussir cette tâche reviendrait à prendre un risque, celui de voir réapparaître d'autres Daesh dans les années à venir.
Oui, Nathanaël, malgré l'importance de cette nouvelle, il faut rester mesuré. Cette défaite militaire de Daesh n'est pas une disparition. Les djihadistes peuvent encore sévir.
Tout d'abord, il y a les prisonniers. Certes, ils sont neutralisés pour le moment, mais ils peuvent avoir encore une certaine influence. Il y a ensuite les combattants qui se sont enfuis et qui soit se sont fondus avec les populations civiles, soit ont décidé de rejoindre les groupes utilisant d'autres moyens d'action comme les terroristes. Il y a aussi un symbole. À ce jour, on ne sait pas ce qu'est devenu al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'État islamique. Défaite militaire mais pas politique, il reste également plein d'autres problèmes. Celui des enfants qui ont grandi dans l'État islamique depuis 2014 et les populations. Toutes ne sont pas heureuses de la fin de cette guerre. Conséquence, les Kurdes, Syriens et Irakiens vont devoir reconstruire les zones détruites et surtout y apporter des réponses politiques pour que la vie puisse paraître meilleure. Enfin, l'État islamique s'est un peu éparpillé comme des morceaux de verre, un peu partout dans la région mais aussi en Afrique. Sans les groupes terroristes locaux qui ont décidé de se rallier à l'État islamique, comme par exemple Boko Haram au Nigeria ou encore les Chebab en Somalie.
La défaite militaire de Daesh annoncée donc ce matin par les Kurdes de Syrie, nous en reparlerons dans le journal de 9h sur France Inter. Nous serons à Beyrouth avec notre correspondant qui rentre tout juste de Baghouz.
Et la chute militaire de Daesh intervient un an jour pour jour après un attentat islamiste en France, dans l'Aude.
Jean Mazière, viticulteur à la retraite, Christian Medves, boucher, Hervé Sosna, maçon retraité et Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie. 4 victimes du terrorisme en effet il y a un an, tout juste à Carcassonne et à Trèbes. Le meurtrier a d'abord tué un automobiliste avant de se retrancher dans un magasin Super U. Le terroriste a ensuite été tué par les forces de l'ordre. Il était un délinquant radicalisé, fiché S. Il avait prêté allégeance à Daesh, mais aucun lien formel n'avait été établi entre lui et des membres de l'organisation. Aujourd'hui, le Premier ministre participe aux cérémonies du souvenir dans les 2 communes avec la garde des Sceaux. À Trèbes, le Super U est toujours ouvert, mais pour ses employés comme pour ses clients, l'année a été pesante. Reportage sur place de Rémi Brancato.
Sur le parking du supermarché, tout le monde se souvient de ce 23 mars.
J'ai entendu des cris.
Suzanne Ribière, retraitée, est sortie juste avant l'arrivée du terroriste.
J'ai vu des gens qui couraient et donc j'ai dit je vais aller au rond-point et appeler la police. J'ai échappé de peu à l'attentat.
À l'intérieur, 90% des salariés ont repris le travail, éprouvés par l'attentat mais aussi l'inondation du magasin en octobre.
Ça a permis de refaire ce magasin entièrement puisqu'il a été inondé avec 80 cm d'eau.
3 mois de travaux menés par Nicolas Bringer, le président de Système U dans le Sud.
C'est quelque part un peu une revanche du destin. Ça permet probablement aux salariés d'éviter des repères visuels douloureux.
Alors à Trèbes ce matin, la place de la mairie change de nom, elle devient place de la République. Le maire Éric Ménassy n'a pas voulu lui donner le nom d'Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a échangé sa vie pour celle d'une otage.
Parce qu'il était difficile pour nous à Trèbes de hiérarchiser la douleur des familles, il était très difficile pour nous à Trèbes de laisser des Trébéens à côté, il y aura les 4 noms qui seront déclinés par ordre alphabétique.
La plaque sera dévoilée ce matin.
Moi, je viendrai.
Elisabeth fermera sa boulangerie juste en face.
Pour pouvoir tourner la page. Pas les oublier, parce qu'il ne faut pas oublier, mais arriver à tourner cette page.
Et pour cela, le frère et la fille de 2 victimes doivent prononcer quelques mots aux côtés du Premier ministre.
Reportage à Trèbes de Rémi Brancato. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif retient son souffle.
Emmanuel Macron reste en région parisienne. Christophe Castaner en son ministère de l'Intérieur et Édouard Philippe rejoindra la capitale juste après ces cérémonies dans l'Aude. Tous sur le pont pour ce 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Après les exactions de la semaine dernière sur les Champs-Élysées, plusieurs centres-villes sont interdits à la manifestation. Les Champs-Élysées et leurs alentours, mais aussi l'hypercentre de Toulouse, de Nice, de Bordeaux, de Rennes. À Paris, les autorités demandent aux policiers d'être plus mobiles et de recourir si besoin aux LBD moins utilisés ces derniers week-ends. Les militaires de Sentinelle seront positionnés dans les points sensibles. À Meaux, en Seine-et-Marne, les Gilets jaunes ont décidé de manifester à 10h chez eux, en Seine-et-Marne. Ils s'appellent les Irréductibles, mais ils ne monteront pas à la capitale, Nicolas Fillon.
Une manifestation résolument pacifique et imaginée bien avant les affrontements marquants de samedi dernier.
On n'avait pas prévu que l'acte 18 soit dans un tournant de violence.
Claire, une des irréductibles gilets jaunes à l'initiative de la marche citoyenne de Meaux.
La cassure est assez importante avec ce qui s'est passé la semaine dernière sur Paris. Clairement, oui, un après, l'armée qui arrive, les amendes, les interdictions de manifester sur certaines rues. Il y a un petit peu plus de réflexion, forcément. Oui.
La différence entre cette marche citoyenne et les rassemblements parisiens, c'est Fabien, un autre irréductible gilet jaune de Meaux qui l'explique.
Beaucoup plus de pacifisme, beaucoup plus orienté au niveau local, au niveau environnemental, ça va être Terre Zéo, le CDG Express, la zone Natura 2000 qu'on aimerait bien voir s'agrandir pour protéger d'autres territoires. Au niveau fiscal et social, ce sont les mêmes revendications.
Mais le réel objectif est ailleurs.
C'est de pouvoir montrer que les gilets jaunes ne sont pas des dangereux criminels comme on veut bien nous le faire entendre, de réunir l'ensemble des familles, leur montrer qu'un gilet jaune, c'est un papa ou une maman ou un grand-parent qui est conscient de ce qui se passe pour leur avenir.
Une façon de redorer l'image des gilets jaunes ternis après l'acte 18, selon Monique, membre des Irréductibles.
C'est de cette manière qu'on va pouvoir informer la population, les rendre acquis à notre cause, leur cause.
Les organisateurs espèrent attirer plus de 1500 personnes à Meaux pour cette marche citoyenne.
5 ans de prison ferme, la peine maximale prononcée hier contre un aide-soignant dans un EHPAD d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Il est reconnu coupable de maltraitance contre une patiente de 98 ans. Hier toujours, la famille d'une autre résidente de cet établissement a porté plainte contre X pour d'autres soupçons de maltraitance.
Aux États-Unis, le procureur Mueller a terminé son rapport d'enquête.
Le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur d'éventuelles collusions entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, il a inculpé au total 34 personnes, dont 6 anciens collaborateurs de Donald Trump. Nous serons à Washington dans le journal de 9h sur France Inter.
Allez, on termine ce journal avec un festival, le festival des écrivains du Sud, c'est à Aix-en-Provence, avec un auteur qui s'est fait professeur.
Éric Emmanuel Schmitt s'est rendu dans une classe de CM2 de l'école des Floralies à Aix. Les élèves avaient préparé un spectacle à partir de ses œuvres et Ilana Moriousef est retournée à l'école.
Jouer, faut que ce soit de l'amusement et aussi comprendre ce qu'on dit.
Le spectacle vient de se terminer. 45 minutes de chansons, de récitations de textes et d'extraits de pièces de théâtre. Pour ça, il a fallu surmonter le trac.
Bah, au début, on a un peu le trac, mais à la fin, en fait, on a compris que ça fait pas si peur.
Faut jamais penser que c'est des grandes personnes, faut penser que c'est des gens normaux de la vraie vie.
Mais le plus intimidé était sans doute Éric Emmanuel Schmitt, impressionné par ce public d'enfants.
Je suis comme vous, je sais ce que c'est que de monter sur scène. Je sais la peur qu'on peut avoir. Je sais que c'est une grosse pression. Là, je vous félicite. Vous avez été très généreux et très exact.
L'instituteur Jean-Rémy Barland a l'habitude de faire venir des artistes dans sa classe, mais à chaque fois...
On se demande s'ils vont y arriver, s'ils vont pas être déçus par leur prestation aussi. Oui, ça y est, c'est fait. Et ils ont été magnifiques.
Tout ça est aussi une histoire d'amitié. La romancière Paul Constant, qui organise le festival, soutient depuis des années le travail de cet instituteur qu'elle admire.
On n'a pas dans la vie 36 professeurs magiques. Et là, ils ont un instituteur magique. Le fameux instituteur auquel Camus rendait grâce au moment de son prix Nobel. Il remercie sa mère et puis remercie M. Germain.
Le reportage d'Ilana Moriousef à Aix-en-Provence.
Et Eric. C'est jusqu'à demain dimanche pour la fermeture. C'était le journal de Frédéric Mettezo.